Première pierre, c'est l'émission qui s'intéresse au parcours et aux mécanismes du changement chez les professionnels engagés pour la ville durable. Changement brutal ou progressif, radical ou étape par étape, comment en sont-ils arrivés là? Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur leur pratique, leur projet, mais également leur épanouissement personnel et professionnel? Ils reviennent sur la toute première pierre de leur engagement.
Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio.
C'est le premier épisode de Première pierre, la nouvelle série à suivre sur Bâti Radio. François-Xavier Monaco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur chez Visea, donc une entreprise qui, depuis 2006, influence les projets pour que la ville soit plus durable. C'est bien ça ?
C'est ça, nous sommes là pour sauver la planète.
Sauver la planète, tout un projet.
Tout un projet que j'explique à beaucoup de gens et les gens qui arrivent chez nous. Alors, dans notre métier, la première pierre, c'est quand même le moment un peu où on partage tout un temps de conception, un travail qui a été fait ensemble et qu'on va partager et qu'on va arriver d'un seul coup sur un chantier, mettre cette première pierre et dire ça y est, ça démarre, notre projet arrive au bout. Donc là, on est dans la première pierre. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est en train de construire aussi un petit truc qui va faire que d'autres gens derrière nous pourront construire le mur et faire en sorte que des sujets de développement durable pour eux se prennent en compte. Donc c'est ça qui est assez sympa, c'est de poser cette première pierre, se dire voilà, on œuvre sur un sujet de développement durable pour d'autres. En fait, si on veut faire en sorte que les futures générations puisse avoir une planète, si Visea est tout seul, Visea fera pas grand chose, quoi. Moi, j'avais un grand-père boucher qui a eu une expérience industrielle sur laquelle on qui est assez intéressante parce que lui, il a développé le Magimix et du coup, ça donne un esprit dans la famille assez spécial. Et l'innovation, le développement fait partie un peu de nos gènes. Mais au départ, il est boucher, donc il a pas du tout une formation scientifique. Après, j'ai des parents libraires. Les parents libraires, c'est pas particulièrement des gens scientifiques. Mais par contre, j'arrive à une génération dans les années 80-90 où la filière scientifique, c'est la filière quand on a un enfant qui va bien à l'école. Bah, en fait, on lui explique qu'il doit être scientifique parce que c'est bien. Voilà. Et du coup, j'ai fait cette filière scientifique alors que moi, me plaisait bien parce que j'adore démonter des vélos, j'adore bricoler et tout ça. Et donc, du coup, s'en est suivi un cheminement où finalement dans la filière scientifique la façon la plus simple d'avoir accès à des sujets sympathiques c'est quand même la classe préparatoire, puis après c'est les écoles d'ingénieurs. Moi j'ai eu la chance de rencontrer l'université technologique de Compiègne, donc l'UTC, qui est une école très ouverte où j'ai appris beaucoup de choses, voilà, et c'est ça qui a formé ma culture technique.
Une culture technique et donc un grand-père innovateur, créateur. Qu'est-ce qu'il a créé alors ?
Alors le Magimix, c'est un mixeur. C'est le premier mixeur en fait pour les personnes chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, il existait des mixeurs pour les restaurants parce qu'il avait travaillé un petit peu après sa boucherie dans un diffuseur de machines pour les restaurants. Mais il n'existait pas en fait de machines pour les personnes individuelles. Et en fait. Je crois que c'est dans les années 60, hein, et d'un seul coup, il crée le Magimix. Donc, c'est la révolution, un peu la révolution industrielle. Hein, on est dans cette période où on commence à produire des choses de façon peut-être même insensée. Aujourd'hui, on voit notre économie où on a des produits peut-être qui, pour certains, nous servent à rien, mais on est très très content de les avoir. Et peut-être qu'on aurait pu ne pas avoir besoin du Magimix, mais enfin, c'est quand même plutôt sympa de pas avoir à mixer à la main toutes ces carottes, enfin, ou faire ses purées. Voilà. Et donc c'est le premier objet qui existe comme ça et qui est développé sur le marché français, qui va se vendre à l'international. Donc il est Oscar de l'exportation, je crois, en 76. Donc c'est un élément assez marquant. À l'époque où on n'allait pas tellement dans les pays étrangers, mon grand-père, il avait été aux États-Unis, il avait fait des foires, il avait une filiale de gens qui étaient intéressés sur ces sujets-là, là-bas. Donc c'est toute une culture en fait de l'innovation et je me souviens à 18 ans, il me fait déposer des brevets. Et donc il m'emmenait à l'INPI pour aller déposer des brevets. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont développé à 18 ans des brevets et les ont posés à l'INPI, mais faire cette recherche. Parce qu'à l'époque, c'était pas informatisé tout ça, hein. Donc on allait dans des grands classeurs voir ce qui avait été déposé, et voilà. Donc c'est ça que j'ai appris effectivement dans la culture peut-être d'ingénierie, qui pour moi est assez importante, parce qu'en fait c'est aussi si on pourra en rediscuter, mais le développement durable c'est bien dans le concept, mais c'est quand même mieux si on arrive à l'appliquer, et du coup ça demande d'être très opérationnel, et du coup cette culture d'ingénierie elle m'aide beaucoup moi aujourd'hui.
Alors, petit flashback, on retourne sur les années universitaires, en tout cas en prépa, à l'UTC de Compiègne. Vous avez un petit coup de cœur pour l'aspect design dans cette formation.
Alors en fait, l'aspect design, c'est et la façon dont on développe les produits. Moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est dans la si on reprend cette histoire et on se repose cette question, effectivement du produit grand public, hein, que pour le coup le Magimix est un produit grand public. Et donc c'est aussi intéressant de se rendre compte qu'on va travailler pour plus qu'une seule personne. Et donc en fait, on est obligé aussi d'encapsuler ça dans un design de produit. Et c'est vrai que l'UTC a une richesse assez particulière, c'est qu'en fait quand on rentre à l'UTC, on sait qu'on va être ingénieur à la fin, mais en fait le cursus qu'on va pouvoir faire à l'UTC est extrêmement varié. Et même dans les variations proposées par l'UTC, on peut même avoir en plus des filières libres. Et donc, ça est encore plus libre. Voilà. Donc, quelqu'un qui va rentrer dans des écoles de ce type, il y a plusieurs écoles en France, hein, qui sont comme ça. Parce qu'il faut aussi dire aux gens que les écoles d'ingénieurs, c'est pas forcément des lignes droites. On peut faire beaucoup de choses différentes. À l'UTC, le design, par exemple, est un élément extrêmement important dans certaines filières. Parce qu'il va être utilisé dans l'automobile, parce qu'il va être utilisé dans le développement de produits. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement pouvoir développer ces produits. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle, d'ailleurs, en développement des cuisinières, parce que c'est le mix entre la trempe des matériaux, la résistance des matériaux. Voilà. Donc, moi, je suis ingénieur mécanicien. Bon, il y a beaucoup de sujets techniques. Et puis, il y a ce côté design aussi, d'innovation et de développement d'un produit. Et le design, c'est pas juste physique, hein, ça peut être le design de service, hein, donc c'est aussi imaginer rendre service en fait à des gens. En fait, toute cette période, c'est une période où moi j'ai appris énormément techniquement. Donc on revient à cette formation scientifique, cette formation d'innovation, de pas avoir peur dans l'innovation, de pas se poser de questions sur le fait que tout est possible et qu'on peut aller faire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec ce bagage-là, ben on peut se permettre beaucoup de choses. Après, moi j'ai une formation d'ingénieur mécanicien. Aujourd'hui, en France, quand on est ingénieur mécanicien, ben en fait, on est plutôt là pour inventer des voitures, pour créer des avions, créer des trains. Et puis, une partie industrielle française assez forte, hein, c'est les armes et le nucléaire, voilà, qui sont des sujets qui, moi, n'ont pas tellement de sens pour moi. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments dans l'ingénierie mécanique, hein, qui sont malheureusement des sujets sur lesquels on se pose des questions aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des voitures, que tout le monde ait une voiture? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut continuer à voyager en avion? Est-ce que ça a du sens de fabriquer des armes pour qu'on les vende à la Russie, pour que derrière elle envoie des chars en Ukraine? Donc c'est des questions, moi, qui sont des questions qui sont à un moment donné venues dans mon cursus, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer des gens particulièrement dans une société qui m'a accueilli pendant 8 ans, avec des gens qui m'ont beaucoup appris, et je peux en profiter pour les saluer et les remercier. Et en fait, toute cette ingénierie avec qui j'ai travaillé, malheureusement, avait beaucoup de sujets qui étaient en lien avec les armes, avec les avions et tout ça. Et donc j'ai dû quitter cette société au bout de 8 ans, parce qu'à un moment donné, c'était plus possible.
Comment vous l'avez formalisé auprès de votre direction, ça ?
Alors, ces gens-là savaient très bien déjà que pour moi, fabriquer des armes, c'était pas un objectif de vie, voilà. Et que y avait des éléments différents qu'on pouvait imaginer, et donc dans cette ingénierie-là, à un moment donné, je leur ai proposé d'aller voir des sujets plus intéressants, développer des énergies renouvelables, essayer de travailler sur ces sujets-là. C'est pas un pari industriel qu'on a fait à l'époque, voilà. À un moment donné, moi, j'ai dit, écoutez, je m'en vais. Après, c'est
intéressant. Je m'en vais parce que je ne peux plus, ou qu'est-ce que vous avez ?
Parce qu'en fait, à un moment donné, je m'en vais parce que, à un moment donné, on est allé faire des choses où moi, j'étais pas du tout raccord. Enfin, on a fait un projet. Ça, c'est dans les équipes du pôle que dont je m'occupais. Il y avait un projet qui était de fabriquer un système qui permet de sortir une mitrailleuse d'un hélicoptère. Une mitrailleuse de 12-7. Alors ceux qui savent ce que c'est qu'une 12-7, c'est des balles qui font la taille d'un petit doigt. Et donc j'imaginais cette mitrailleuse sortir d'un hélicoptère pour tirer sur des enfants en rasant des villages. Et en fait, il y a un moment donné, il y a des gens qui sont raccord avec ça, qui disent c'est la paix, on va protéger la paix. Moi, je suis pas d'accord en fait pour qu'on continue à fabriquer des armes, et je suis pas d'accord pour qu'on continue à avoir cette vision en se disant que c'est important.
Voilà. Alors peut-être qu'on met le doigt ici sur le moment de bascule.
Mon moment de basculement, c'est le moment, en tout cas c'est le moment où on peut repérer, moi, dans ma vie professionnelle, où à un moment donné il y a un stop où on dit moi j'allais avoir 3 enfants, hein. Je voyais pas bien l'intérêt de fabriquer des armes. Voilà. Et donc, je pense que chacun a besoin de sens dans sa vie. D'ailleurs, les nouvelles générations sont sans doute plus aguerries que nous sur ces sujets-là. Nous, si on revient dans cette culture d'ingénierie, où moi j'arrive école d'ingénieur, enfin classe préparatoire, école d'ingénieur, et puis je me retrouve à fabriquer des grands systèmes. Aujourd'hui, un jeune, quand il sort de l'école, en fait, il a déjà fait le choix d'un certain nombre de choses. Donc, c'est un peu la grosse différence entre ces nouvelles générations et nous. C'est qu'en fait, ils ont besoin de plus de sens. Bon, ceux qui arrivent ont en plus vécu le Covid, donc ils savent que c'est encore plus important. Voilà, donc le sens est un élément extrêmement important. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, nous, le recrutement chez nous, c'est pas un problème, parce qu'en fait, les gens chez nous viennent sans aucune difficulté. Et j'en discutais avec des gens qui travaillent dans d'autres métiers il y a peu de temps. Pour eux, même recruter des débutants en ce moment, c'est compliqué, alors que nous, c'est pas compliqué du tout. Parce que les gens ont envie de sens. Et effectivement, ce sens, c'est avant de construire cette première pierre, c'est essayer de redonner du sens. Et ce sens, c'est à un moment donné se dire, qu'est-ce que je veux faire ? J'ai 3 enfants, qu'est-ce que je veux leur apporter ? Et qu'est-ce que je veux pouvoir laisser, en fait, à la planète ? Alors maintenant, ils sont grands. Hein. Maintenant, ils ont 18 ans, 21, et la petite a 16 ans. La dernière grande à 16 ans, mais à l'époque, quand j'ai construit Visera, elle avait 1 an. Voilà. Donc c'est un moment où, en fait, moi j'avais des enfants très jeunes, et j'avais envie de faire en sorte que ce que je fasse soit utile pour eux, parce qu'en fait, nous on n'est que de passage. Moi, si j'ai un élément qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, c'est sympa autant qu'à faire s'éclater quand on est là, mais après aussi laisser aux autres la chance d'avoir des éléments bien sur notre planète. Et donc c'est le sens que j'ai essayé de donner à ma vie, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question de ce que je savais faire. Bon, voilà, j'étais ingénieur, donc l'innovation, ça me parlait. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des réunions, d'ailleurs qui arrivent en réunion parce que c'est marqué dans leur agenda, généralement Outlook. Et donc ils viennent à la réunion, ils savent pour certains pas trop ce qu'ils font là. Ils ont pour d'autres des objectifs à défendre, souvent économiques. Et puis pour très peu d'entre eux, finalement, ils sont là pour du sens, voilà, donner du sens. On se rend compte que les équipes, quand l'ensemble de la chaîne d'une équipe est motivé et va se bouger et justement donne du sens à ce qu'ils font, quand il y a un élu, des services, enfin des architectes urbanistes, des équipes de bureaux d'études qui sont tous motivés, ben en fait on arrive à faire des super projets. Voilà. Et parce qu'en fait ces gens-là ont du sens dans leurs projets. Et donc c'est vrai que quand on arrive dans des réunions où les gens sont coincés parce que en fait ils ont un problème économique et qu'ils savent pas, qu'ils défendent en fait des intérêts plutôt que donner du sens à ce qu'ils font, ben on arrive à des moments où c'est juste on perd notre temps. Et donc c'est vrai qu'il m'arrive par moment de couper des réunions en disant, ben en rappelant, et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps à Lyon, en disant ben non en fait là, vous voulez pas sur ce projet intégrer une géothermie sur nappe plutôt que mettre des packs RR sur vos commerces. Ben en fait, je ne suis pas d'accord et ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est capable de lever la main en disant, ben en fait, je ne vais pas dépenser 400 000 euros que je sais très très bien financé par des banques, puisqu'aujourd'hui le développement durable est quand même très finançable. Je vais lever la main en disant, ben en fait, moi, les futures générations, ça m'intéresse pas. L'îlot de chaleur urbain, c'est pas mon problème. Le confort des futurs habitants, c'est pas mon problème. Il y a un moment donné, ça, je pense que c'est bien aussi qu'on le repose. Ça demande une grosse expérience, une expertise. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sort de l'école, on a une expertise technique. Voilà, il faut après être sûr que ça marche. Cette géothermie sur nappe, si je savais pas qu'elle marchait, je pourrais pas la proposer comme ça. Si j'étais pas convaincu qu'il y avait du sens et qu'on ne pouvait pas laisser une planète, enfin dans l'état dans lequel elle va arriver, je ne pourrais pas le faire. Et il m'est arrivé quand j'ai commencé Visea des situations où j'ai un maire qui m'a expliqué que Monsieur Monaco, vous êtes bien gentil, mais moi quand je monte sur un vélo, je tombe, donc je vais pas faire des pistes cyclables. Voilà. Bah, il y a 15 ans, j'ai pas osé lui répondre. Ce serait aujourd'hui, je saurais lui répondre en lui disant que il y a beaucoup de gens qui font du vélo, que lui, ça lui ferait du bien pour son cœur et que sans doute il y a beaucoup de choses à imaginer dans sa ville autrement que ce qu'il imagine aujourd'hui.
De l'aplomb, peut-être, depuis quelque chose de plus construit, une vision affinée, une assurance peut-être aussi. Et chez Visea, aujourd'hui, un leitmotiv fort que vous annoncez d'entrée, dès qu'on arrive en entretien de recrutement.
Alors, c'est même avant de les acquérir, c'est quand on les recrute, on leur dit « si tu viens chez nous, c'est pour sauver la planète ». Je dédramatise tout de suite, hein. Nous n'allons pas sauver la planète. La question, c'est la planète qu'on a, dont on a besoin pour vivre. Et pas particulièrement en France, parce que nous sommes pas les plus mal lotis. D'autres pays souffriront bien avant nous. Et du coup, on revient à cette question du sens. Nous, c'est important aussi que les gens qui viennent chez nous soient des gens qui aient envie, en fait, de sauver la planète. Parce que s'ils ont pas envie, en fait, ils ont rien à faire chez nous. Et s'ils n'ont pas envie, on leur donnerait accès en fait à des projets et qui rateraient. Et en fait, le fait d'en avoir envie, le fait de l'assumer et le fait de leur dire, ça les décoince un peu, quoi. C'est-à-dire que le premier jour, quand ils arrivent et qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui va essayer de rendre un projet terne et un projet qui va consommer de l'énergie ou voilà qui va abîmer la planète entre guillemets, il va pouvoir dire bah en fait moi mon président il a dit que en fait on était là pour sauver la planète, donc je vais me battre. Et d'ailleurs la première formation qu'on leur fait c'est une formation de prise de parole en public pour qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils puissent poser les deux pieds sur le sol et dire bah en fait moi je suis pas d'accord. Et donc mes collègues, je leur demande de dire moi je suis pas d'accord, parce qu'en fait je leur demande de faire en sorte qu'ils construisent avec nous le mur. Enfin, on a fait la première pierre, ils sont là pour construire les autres pierres, hein. Entre autres, hein. C'est pas que eux, mais en tout cas, ils sont là pour construire les autres pierres.
Et je suis allé les inviter aujourd'hui pour qu'ils parlent de leurs pierres.
On aurait pu les inviter autour de nous. On aurait pu, en tout cas, on pourrait leur poser la question de témoignage de comment ils vivent ça, hein. Mais je crois qu'effectivement, ils ont conscience qu'on est là pour avoir du sens et qu'en fait, eux, ils doivent résoudre un certain nombre de sujets.
On peut dire que, quelque part, vous êtes un entrepreneur mentor, peut-être, ou peut-être que vous préférez accompagnateur.
Alors, moi, je suis plutôt un accompagnateur. Voilà, je crois beaucoup dans le développement personnel des gens et dans le fait que les gens vont apporter quelque chose que je n'ai pas moi. Et j'ai d'ailleurs des collaborateurs qui sont beaucoup plus forts que moi sur plein de sujets. On devait avoir 2 ans d'existence. Hein, on travaillait sur des bâtiments et il y a une stagiaire hein, qui arrive et qui dit mais en fait c'est bien de faire de la qualité environnementale, mais on devrait aller à l'échelle urbaine. Et en fait elle a construit après notre travail sur l'échelle urbaine où aujourd'hui on est sans doute les plus connus. Hein, c'est effectivement notre capacité à intégrer le développement durable dans des projets urbains. Voilà, moi je l'ai accompagnée et justement je lui ai donné une place, on l'a écoutée, elle nous a apporté en fait beaucoup dans le cheminement intellectuel qui nous permettait de sauver la planète.
Elle a su, cette stagiaire, être force de proposition, comme les Viséa, hein, d'une manière globale dans sa démarche. Donc sa démarche justement, c'est le développement durable dans la construction de la ville, donc c'est tout un projet. Comment vous pourriez concrètement l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas?
Alors le mot développement durable, en même temps, il y a pas très longtemps, j'étais à une réunion où effectivement on s'est posé cette question. Je me demande s'il faut pas qu'on change cette baseline en disant bah on est juste là pour la planète quoi. C'est une question que je vais soumettre à mes collègues. Notre travail chez Viséa, c'est effectivement de donner des solutions à l'ensemble des acteurs qui vont inventer la ville de demain pour faire en sorte qu'en fait on puisse avoir des villes, que ce soit des villes confortables, que ce soit des villes qui consomment pas de ressources, que ce soit des villes qui protègent notre avenir. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important. Donc on a un travail à l'échelle bâtiment, on a un travail à l'échelle urbaine, un travail au niveau de la politique publique territoriale hein, puisque tout commence aussi par là hein, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on travaille sur le PLU de la ville de Paris et en fait le PLU va se décliner dans des opérations d'urbanisme, va se décliner à l'échelle de bâti où on va avoir un certain nombre d'exigences qui vont permettre d'intégrer justement cette protection ou en tout cas cette capacité à vivre en société dans des villes qui sont confortables et qui sont durables pour l'avenir. Voilà.
Et une mission assez proche de la sensibilisation, vulgarisation ou peut-être
Notre métier commence par ça. D'ailleurs, enfin, nous on travaille aussi sur des sujets très forts comme la mobilité et la transition environnementale des entreprises. Ce sont des métiers où, en fait, on est obligé d'abord expliquer. Enfin, ça fait partie. Je pense que dans notre travail, on va dire 20% de notre travail, c'est expliquer. On parlait tout à l'heure de ces gens qui sont encore un peu sceptiques. Oui, il y a des gens sceptiques. Bien sûr, il y a des gens sceptiques. Il faut leur expliquer les choses. Il faut redire les choses et avec cette conviction, en posant bien ses pieds sur le sol, en étant sûr que on est utile et que voilà, il y a pas d'erreur dans ce qu'on fait. Faut expliquer ces 20%. Après, il faut construire. Et après, il faut mettre en place. Et ce qui est très important pour nous, chez Viséa, en tout cas, c'est d'arriver à mettre en place. Parce qu'en fait, ok, il faut convaincre pour arriver après à mettre en place. Mais après, il faut savoir mettre en place. Et c'est la grosse difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui de baguette magique pour sauver la planète. On a une baguette magique pour arrêter des réunions disant bah non en fait là on se trompe, donnons un autre sens à notre opération et faisons en sorte que ensemble on soit fiers de ce qu'on fait et quand à la fin on puisse dire voilà on a réussi quelque chose qui a du sens en tout cas nos enfants seront contents qu'on ait fait ça.
Et oser franchir le cap, donc c'est quelque chose que vous faites seul dans votre démarche d'entrepreneur, que vous faites avec Viséa, donc ensemble. Est-ce qu'on peut dire que parfois il y a des moments de doute malgré tout?
Alors il y a de moins en moins de moments de doute. Enfin, toute entreprise a ses moments compliqués. Il faut être capable de se sublimer. Tous ceux qui ont vécu le Covid le 15 mars 2020 et qui étaient chefs d'entreprise, je pense que le doute c'était à 9h du matin était là, à 15h peut-être un peu moins là. Voilà. Ce qui est sûr c'est que le doute sur le sens aujourd'hui, je crois qu'on l'a plus du tout. Et d'ailleurs, nous on a un comité de décision dès qu'on a des projets un peu ambigus. On a un comité métier qui est là pour dire non en fait. On fait pas ce projet-là parce qu'en fait ça n'a pas de sens. Donc ça nous arrive de plus en plus de refuser des projets. C'est plus facile parce qu'on est connu et qu'on a la capacité de pouvoir dire non. Hein. Enfin c'est pas donné à tout le monde. Mais du coup il y a pas de doute, non. Je crois pas qu'il y ait des doutes. Après il y a des doutes sur comment on fait, comment on s'organise, comment on vit ensemble au niveau de Viséa pour faire bien notre métier parce que ça demande de l'engagement, parce que c'est compliqué, parce que voilà on développe beaucoup de choses, voilà.
Vous n'avez pas de doute apparemment, ou peu de doute, ou vous savez les affronter. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont une idée, mais qui n'osent pas franchir le cap, ou qui sont peut-être sur ce moment de bascule, mais qui n'osent pas chuter pour mieux se relever? Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Si on devait conseiller des gens qui se posent cette question, parce qu'en fait, effectivement, on est dans un temps où beaucoup de gens se posent cette question de savoir, on est post-Covid, il y a des gens qui se sont rendus compte que ben voilà, il y avait des choses à faire. Moi, je le dis souvent quand je suis dans des réunions avec beaucoup de gens, je leur dis, en fait, vous êtes ultra puissants. Et ça, c'est pour moi, c'est un élément extrêmement fort. C'est ultra puissant. Enfin, moi, je pourrais être en train de fabriquer ou de piloter une équipe qui fait des armes, quoi. Bah non, en fait, j'ai décidé de mettre mon cerveau à l'utilisation pour sauver la planète, toujours entre guillemets. Et en fait, je crois que les gens qui se posent cette question-là, faut pas qu'ils aient peur. Aujourd'hui, on est tellement nombreux à se rendre compte qu'il y a un problème, et il y a tellement peu de gens qui franchissent ce cap qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de problèmes commerciaux, il n'y a pas de problèmes, voilà. Et on est dans un métier où, de toute façon, l'innovation fait partie, c'est une fibre indispensable des gens qui vont faire ce métier-là. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait me dire ce que c'est que le monde dans 30 ans, il est très très fort. À part le fait qu'on devra avoir 2 tonnes de CO2 à chacun au lieu de 11 tonnes en France, en fait, on ne sait pas comment ça va marcher. Et aujourd'hui, même les gens qui font les plus gros profils énergétiques, comme Negawatt, comme l'ADEME, comme EDF, tous les profils qu'on est en train de faire, personne ne sait ce qui va se passer dans 30 ans. Si on doit les conseiller, on leur dire de franchir le cap et de s'assurer en se disant qu'ils ont raison, en fait. Ils ont raison de franchir ce cap. Il ne leur arrivera rien de grave. Au pire, ils redeviendront salariés s'ils ont envie de monter une société. Mais même s'ils veulent devenir salariés, aujourd'hui, il y a plein de formations. Et ça, c'est un élément intéressant qu'il faut leur donner, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... On manque, en fait, de gens expérimentés dans ces métiers. Parce qu'en fait, le développement durable, il y a 15 ans, existait très peu. Hein, donc, il y avait pas de formation au développement durable. Donc les gens qui sont formés aujourd'hui sont des gens qui soit sont des gens comme moi qui ont changé de vie et ça c'est assez important. Il y en a beaucoup qui ont changé de vie, donc ça c'est assez fort. Soit des gens qui ont finalement grandi dans les entreprises comme Visea et qui commencent à avoir de l'expérience. Mais on a besoin de gens expérimentés qui viennent d'autres métiers, donc ils peuvent faire de la reconversion professionnelle sans aucun problème.
Donc, en d'autres termes, vous les invitez à passer le cap, à le faire avec courage, et que derrière, il peut y avoir même parfois des mentors. Donc, est-ce que vous, d'ailleurs, vous avez eu la chance de rencontrer un mentor? Quelle est votre muse, en fait, votre source d'inspiration?
Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup appris sur le côté industriel, sur la gestion de projet, sur ce que c'est, comment créer une entreprise, comment la développer et tout ça. Voilà. Je pourrais citer Eric de Tocqueville, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui a été d'ailleurs le premier associé de Visea, qui m'a aidé à construire Visea. Il n'y a pas eu de grands éléments. Enfin, c'est une multitude de gens, en fait, hein, qui sont qui travaillent. Il y a le travail d'Ecopolis, hein, il y a le travail de l'ICEB en Île-de-France, hein, qui est aussi très fort. Bien sûr, il y a des textes très intéressants, il y a des Pierre Rabhi, des gens comme ça, enfin qui sont des gens très particuliers, qui apportent une lecture du monde différente. Mais je crois que c'est surtout en fait le fait qu'il y ait plein de gens en fait qui travaillent sur ce sujet. Enfin, il y a des grands scientifiques qui travaillent pour le GIEC. Il y a des ingénieurs études qui travaillent dans des sociétés comme la mienne pour essayer de mettre en place des choses. Des hommes politiques, hein, qui changent brusquement les choses. Hein. On peut voir à Paris, hein, le passage au vélo, c'est un truc incroyable. Pour venir ici, j'ai utilisé mon vélo. Voilà, j'ai profité de ces grandes pistes cyclables au soleil. Coup de chance, nous sommes au printemps. Voilà, donc c'est tous ces changements qui petit à petit apparaissent, qui pour moi sont vraiment mettre dans le sens. Et je pense que les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui, en fait, ils voient autour d'eux plein de gens, que ce soit même en formation, hein, d'exemples, de projets. Voilà. Et je pense que les centres de ressources comme Ecopolis, j'en profitais, hein, Ecopolis apporte aussi beaucoup en disant, ben voilà, il existe des choses, regardez, c'est possible.
Et si on fouillait, ce sera ma dernière question, dans la librairie de votre enfance, de votre adolescence, celle de vos parents, alors peut-être pour parler d'un livre d'antan ou d'un livre de votre chevet qui vous accompagne aujourd'hui, ce serait lequel, celui qui pourrait même, pourquoi pas, résumer votre parcours?
Alors l'avantage d'une librairie, c'est qu'il y a beaucoup de rayons. Et du coup, on peut aller fouiller beaucoup de choses. Donc, il y a des livres plus techniques. On a parlé tout à l'heure de gens comme Pierre Rabhi. Mais en fait, moi, il y a un livre qui s'appelle Corps et âme de Frank Conroy, qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un jeune pianiste qui est abandonné plus ou moins par ses parents. Et en fait, il y a une personne qui vient s'occuper de lui et qui vient l'aider à faire du piano et devient virtuose. Une pianiste virtuose. Et ce que j'aime bien dans cette expérience, c'est qu'en fait, déjà rien n'est perdu, voilà, et qu'en fait on peut tous avoir quelque chose qui va être utile. Et en fait, ça demande énormément de technicité, le piano. Et du coup, il y a aussi tout un travail, voilà, qu'on peut faire pour amener à quelque chose. Et si on doit un peu résumer, j'ai l'impression, moi, la vie, c'est quand même que, en bossant un peu, et en se donnant du plaisir à faire les choses et en se donnant du sens à ce qu'on fait, on peut faire des trucs super, quoi. De construire ces trucs super, d'arriver à sauver la planète ensemble, et ça nous demande quand même d'être agile, de savoir mettre les doigts sur le piano, de connaître tous les éléments harmoniques, comprendre comment, puisqu'à un moment donné, il faut savoir concevoir une musique, voilà. Et donc c'est un peu cette expérience qu'on peut mettre en parallèle entre notre vie professionnelle et ce livre.
On peut redonner le titre?
C'est Corps et âme.
Corps et âme de
Frank Conroy.
Eh bien, jolie métaphore. Sauvons la planète avec Visea, on va y participer. Jouons du piano. Un grand merci à vous, François-Xavier Monaco, pour ce beau témoignage.
Première Pierre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.